Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer le podcast en disant un gros merci de votre compréhension à tous ceux qui avaient des billets pour Québec qui était dans le fond le 20 mai. Malheureusement, il y a eu un problème avec un gros dégât d'eau au Comédia Club à Québec, fait que le spectacle n'a pas pu se faire. Et il est reporté pour le 10 juin. Fait que gros merci tout le monde de votre compréhension. Moi, ça m'a fait fucking chier. Mais en même temps, gars, qu'est-ce que tu veux faire, Esti? Il n'y a rien à faire, c'est pas à faute à personne. C'est des choses qui peuvent arriver. Fait que bref, tout le monde, gardez vos billets. On va refaire le... C'est ça, on va déplacer ce spectacle-là pour le 10 juin. Et on va avoir crissement du fun, puis je vous promets de donner un excellent spectacle. Fait que si vous voulez des billets, vous n'avez pas pu vous en procurer, c'est au jerryalain.com. Je vais être aussi le 16 juin à Lévis et le 17 à Longueuil. C'est les trois dernières dates qui restent pour me voir en spectacle. Fait que cette semaine, qui qu'on reçoit, nul autre que notre journaliste préféré. Et oui, j'ai nommé Félix Séguin. Il vient pour une troisième fois. Un gros merci à Félix d'être revenu encore une fois. Félix, il est bien occupé. Il est bien occupé. Fait qu'il a pu venir, mais encore une fois, il a pu juste rester à peine une heure. Mais un gros merci quand même à Félix. On prend tout son temps. Tout qu'est-ce qu'il peut nous le donner, on va faire avec. Fait que c'est ça, dans ce podcast-là, on a parlé entre autres de son voyage qu'il a été faire quand il était en Colombie. Hein, il était en Colombie pour faire le chemin de la route... de la cocaïne, puis bref, c'est ça, il est venu nous en parler de tout ça. Je vous recommande d'aller écouter son podcast, hein, Narcos PQ, allez écouter ça, c'est disponible pas mal tout partout. Allez checker sur Spotify, c'est sûr que vous allez le trouver. Puis c'est crissement bon, il y a plus de détails dans ce podcast-là, mais dans le note, il a pu rentrer dans des détails, mettons, qu'il n'aurait pas pu dire dans son podcast. Fait que c'était vraiment le fun d'en parler. C'était le fun aussi d'avoir le recul depuis ce temps-là. Parce que c'est ça, il avait été, depuis qu'il était venu sur le podcast, il a été un voyage à Colombie. Il a aussi été en Ukraine. Fait qu'il nous a parlé beaucoup de son voyage en Ukraine. Puis aussi de tout ce qui se passe dans le Grand Montréal. Hein, les problèmes de fusillade, la violence armée à Montréal. Fait que bref, on a parlé de tout ça. On a parlé aussi de la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto. Fait que ça a été un esti de bon podcast pour vrai. Fait qu'un gros merci à Félix Séguin, c'est crissement apprécié tout le monde. Ou sinon, si vous voulez m'écouter, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 4-5 piastres, d'autres un peu plus chers. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet de pouvoir écouter le podcast avant qu'il sorte en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec François Léveillé, un autre avec Martin Viau, qui est un ambulancier qui est venu nous parler de sa carrière, de son vécu, man. Le gars, il en avait long à dire. On a aussi Denis Côté, hein, qui a été le policier qui a neutralisé le tireur à Dawson. On a aussi un autre podcast que je viens d'enregistrer aujourd'hui, qui est avec Stéphane Walt, qui est un policier à la retraite, qui était dans une prise d'otage, puis qui a dû avoir à neutraliser l'agresseur. Bref, ça a été un esti de bon podcast, ça aussi. Fait que bref, si vous voulez les voir d'avance, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Si vous voulez m'encourager, vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème. Allez juste vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire pour aider avec les algorithmes. Écrivez Narcos PQ dans les commentaires. Si vous avez aimé le podcast, vous l'avez écouté jusqu'à la fin, vous avez aimé ça. Écrivez Narcos PQ. Puis c'est ça, si vous voulez aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, Jerry Alain, à mon compte Instagram, Jerry Alain, ça va être super apprécié. Ou sinon, tout le monde, sur ce, Je vous laisse écouter le podcast. Gros merci de me suivre. Passez une excellente semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Hey, j'ai une grosse journée, là. Fait que, ciao, hein! 'Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir pour une troisième fois. Félix Séguin, ça va bien mon gars?
Ça va?
Comme je disais d'entrée de jeu, je suis content que tu t'es pas encore fait tirer.
J'ai des bonnes qualités pour ça, je travaille fort pour pas que ça arrive.
Moi je vais te parler de plein d'affaires, mais encore une fois, t'es bien pressé, un homme très occupé. Oui. Je voulais te féliciter d'un pour l'adaptation de ton film au cinéma, Confession, c'est réalisé puis interprété aussi par Luc Picard. Oh,
merci.
Puis c'était un excellent film, j'ai vraiment aimé ça.
J'ai des histoires à te conter là-dessus aussi, là, sur la création de tout ça, là, un peu capoté.
D'ailleurs. Ben c'est ça, là, tu sais. Mais là, tabarnak, je voulais te parler de ça, mais entre-temps, il arrive plein d'affaires. Oui. Entre autres, t'étais allé en Ukraine.
Oui.
Puis comment t'aimais ça, aller là? C'était quoi ton constat en arrivant?
Ben, tu sais, sur la question comment t'as aimé ça...
Ouais.
Si la réponse va te surprendre, c'est beaucoup. Parce que, au fond, si tu deviens journaliste, comme moi, j'ai choisi d'être journaliste pour ça. Moi, quand j'étais jeune, je me voyais faire ça. Moi, mes idoles, c'était pas des vedettes de la pop, là, c'était Raymond Saint-Pierre. Là, Alors, quand j'entendais ces gens-là nous raconter des histoires qui se déroulaient à l'étranger, moi, je voulais faire ça. Puis là, j'ai la chance de faire ça depuis 10 ans, puis encore plus maintenant. Donc, tu sais, est-ce que j'aime ça? Globalement, faire ça, je capote. J'ai jamais eu l'impression de travailler une journée dans ma vie. Est-ce qu'il y a du risque? Oui. Est-ce qu'il y a du risque que ça gère? Oui. Puis qu'est-ce que j'ai constaté? Ben, j'ai constaté, au fond, parce que là, on s'est rendu... C'était la deuxième fois que j'y allais. Je suis allé en 2022. Là, je suis allé en 2023, je suis retourné. Donc, puis on s'est rendu très près dans l'Est, à l'Est de Kharkiv.
Ouais, quasiment sur les lignes. Là.
Quasiment sur les lignes. Puis, au fond... c'est que t'as une vision complètement différente. T'es à Kiev, dans la capitale, là, au fond, c'est presque business as usual sur ce que sur ce que tu vois quand t'arrives. T'sais, trafic, bar, oui, il y a un couvre-feu, là, mais tu peux rentrer dans un bar juste avant le couvre-feu, sortir le matin. Mm-hmm. Des restos sont ouverts, puis sont fréquentés. Il y a des coupures d'électricité, il y a des alarmes, des alertes anti-aériennes qui t'avertissent qu'il y a probablement des missiles qui sont lancés ou des mouvements dans le ciel. Ça détonne un peu, mais autrement, tu peux mener une vie normale. La ville est approvisionnée en produits. Il manque, entre guillemets, de rien, sauf la plus grosse affaire importante dans une vie, c'est la paix.
Oui, puis la sécurité. Ouais,
la sécurité. Mais puis là, quand tu te déplaces dans l'Est, là, on est complètement ailleurs. Tu sais, anecdote, on était avec moi puis mon caméraman, Fred Terrien, que j'ai mis beaucoup en valeur puis en visibilité, d'ailleurs, dans le carnet de route qu'on tenait. Mm-hmm. Puis... tu sais, Fred, quand il est arrivé dans l'Est, lui, c'était sa première expérience, il était un peu stressé, un peu nerveux, puis c'est comprenable. Il n'était pas déplacé, mais il était nerveux, tu sais. On était au resto de l'hôtel à Kharkiv avant de se coucher un soir, et là, je dis, écoute, Fred, j'essaye le bon vieux truc d'un scotch puis un ativan, là, tu vas voir, ça va te régler tes soucis. Et le lendemain, on se réveille, on se réveille le lendemain, puis la fixeur, Alina Kondratenko, qui était avec nous, un texte, elle dit « Comment avez-vous dormi? » Je me dis « Très bien. » Puis là, elle m'envoie des images, puis on voyait vraiment au-dessus de l'hôtel plein de missiles passés qui venaient de Belgorod, juste avec nous. J'ai rien entendu, rien, Fred, rien entendu. Puis, tu sais, à un moment donné, ça relève de l'anecdote, mais tu sais, c'est un peu un non-dit aussi qu'à un moment donné, quand tu fais ces jobs-là, il faut que tu sois capable de dormir, tu sais. Puis moi, j'ai un sommeil léger. Puis à un moment donné, quand ça fait plusieurs heures que tu passes debout, puis en situation stress, il faut que tu dormes. Alors, ben on s'est réveillé ce matin-là, on n'avait absolument rien entendu.
Ah ouais.
Maintenant, assez parlé de moi, mais qu'est-ce que tu constates là-bas, c'est que ça va être une guerre, probablement, qui va être hyper longue, plus longue qu'on pense. Là, on commence à voir que l'offensive ukrainienne tant souhaitée n'arrive pas. Les dernières fuites de documents provenant du ministère de la Défense, du département de la Défense américain, nous montrent que les pertes ukrainiennes sont beaucoup sous-estimées par le pouvoir en place. Puis que les Russes ont beaucoup, beaucoup plus d'armement, là, tu sais, sous réserve que les pays alliés de l'Ukraine en fournissent eux aussi plus. Bref, comme c'est dit dans l'ouvrage de fiction, le mage du Kremlin, mais qui est assez près de la réalité, qui a failli gagner le prix Goncourt, qui est en domination, on dirait que la guerre est utile, on dirait, pour Vladimir Poutine, et on dirait que ça va durer, puis on oublie souvent que cette guerre-là, au fond, on en parle beaucoup depuis 2022, mais elle dure depuis 2014, hein.
Ouais, c'est ça, avec l'invasion de la Crimée.
Ben oui, c'est ça, donc, tu sais... C'est vraiment, c'est rough, là, dans l'Est, sur le front Est, l'Ukraine, sud-est aussi, c'est rough.
Ben, c'est ça, tu t'es rendu là, t'as même pu avoir une entrevue avec un soldat en permission, je pense,
Ouais, il était en permission pendant 2 jours.
C'est ça.
Puis on l'a interviewé, lui, il revenait de Bakhmout, en fait.
OK.
Bakhmout, qui est toujours, là, à l'heure où on enregistre ton podcast, là, un peu disputé entre les Ukrainiens puis les Russes, et... Je veux dire, ce qu'il nous racontait là, tu sais, ce que je retiens de son entrevue, si t'as pas les nerfs pour faire ça, va pas là. Parce que c'est une guerre où dernier, lui, il était là sur les tranchées, là, en fait, quand on dit une guerre d'attrition, là, c'est que t'as deux armées qui se font face, puis là, à Bakhmout, dans certains cas, il était à 100 mètres l'une de l'autre.
Ah ouais,
dans des tranchées.
Dans des tranchées, donc, comme dans la Première Guerre mondiale.
Dans la Première... Ouais, c'est ça. Puis c'est là où tu sais, les combats sont tough, là. C'est-à-dire que, tu sais, tu te lèves, tu marches, tu changes de position, puis tu reviens pas à la maison, parce que... Puis, de l'autre côté, c'est les hommes de Prigozhine, donc le chef de Wagner, qui sont là, qui sont des mercenaires semi-entraînés. Eux autres aussi, là, ils subissent des pertes. Là, ils appellent ça, le président du groupe Wagner, après l'armée appelait l'armée ukrainienne la machine à saucisse, là, parce que ces hommes allaient là, puis ils en revenaient pas. C'est une boucherie incroyable, là.
Ouais. Puis en plus, quand t'étais là, il y a eu des missiles, je pense, qui ont été tirés, genre 6 missiles.
Oui.
Qui ont été détruits par,
oui.
par la défense anti-aérienne.
Oui.
Ça a dû te foutre la chienne.
Pas tant. T'apprends à vivre avec ça, puis tu apprends aussi à entendre, puis à... Au fond, regarde, c'est pas grave. Disons, là, mise en situation.
Oui.
T'es dans une tranchée où t'es proche du front, puis t'entends des missiles. Essaie pas de regarder le ciel, regarde la personne qui est en face de toi. Que l'habitude. Si elle panique, tu peux commencer à t'énerver.
Okay.
Mais si la personne en face de toi panique pas.
OK.
Hein? Donc,
ouais, j'avoue, c'était pas pire.
C'est un bon gauge,
ouais, ouais.
comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais.
OK. Aussi, tu disais qu'il y avait, un cimetière.
Ah,
c'était quand
ouais.
même bien marqué, ça aussi.
Ben, ça, c'est marquant.
C'est à Irpin.
Ça, c'est à Irpin. Ça, c'est vraiment touchant parce qu'à un moment donné, t'as besoin. T'as beau parler de morts, t'as beau parler de centaines de morts, t'as beau parler de crimes contre l'humanité, puis ils ont beau être quantifiés, tu sais, ces crimes-là dans les médias, puis dans les rapports d'experts, mais à un moment donné, quand tu vois des centaines de croix,
des visages, des
jeunes,
ouais,
puis des jeunes hommes, puis des jeunes femmes, puis des aînés. Tu sais, tu réalises que ces gens-là ils étaient pas partis à la guerre, eux, ce matin-là. Puis, écoute, je veux dire, ce cimetière-là, à Irpin, ça finit plus de s'étendre. Puis là, quand tu le vois, puis, tu sais, c'est une journée, des fois, les éléments sont un peu aussi, en faveur de créer une émotion particulière, parce que cette journée-là, c'était très sombre, il y avait une pluie, tu sais, fine, il y avait un vent.
Ouais, c'était dramatique.
On dirait que ça ajoutait du drame à ça, puis tu voyais, tu sais, l'alignement de croix plantées, c'était bien émouvant, cette partie-là, parce que tu vois, tu peux te représenter, enfin, qu'est-ce que c'est. Hein.
Ouais. Puis, je me demande aussi comment tu as été reçu par les Ukrainiens, tu sais.
Okay.
Ouais, c'est ça, sont-tu contents de te voir?
Oui, ils sont très heureux.
Ouais, ben parce ouais. que aussi, c'est une guerre physique, mais il y a aussi une guerre de communication. Là,
ouais, puis ça, les Ukrainiens la gagnent, cette guerre-là.
Ouais.
Tu sais, si les journalistes étrangers arrêtent de venir chez eux, ils vont finir par... leur conflit va devenir une anecdote dans la couverture des nouvelles. C'est comme ça que ça fonctionne aussi.
Fait qu'ils sont contents de te voir quand
parce qu'ils savent que ça va, tu vas permettre à ce conflit-là d'avoir
une voix,
tu sais. Parce que de la minute où les journalistes internationaux s'en vont, ça va peut-être aller plus mal. Puis, ils savent ça, les Ukrainiens. Puis, tu sais, on pense que c'est... on pense que, tu sais, les journalistes s'en vont là, ils improvisent un peu. C'est pas ça, là. L'armée ukrainienne a des bureaux de presse dans chaque région. Tu peux aller les voir, puis ils t'offrent un genre de bouquet de services, là, de reportage. Tu sais, puis je le dis comme c'est arrivé, là. La personne qui était là dans l'Est, là, l'officier, m'a dit veux-tu voir du monde brailler? Veux-tu voir du monde brailler un peu, beaucoup? Veux-tu aller au front à zero line, c'est-à-dire là où vraiment le combat est plus actif? Veux-tu aller voir des artilleurs? Veux-tu aller voir des démineurs? Il t'offre quelque chose.
Mais ça fait
parce qu'il
pas
veut
peur.
Que tu fasses quelque chose.
Mais ça fait pas peur que ça soit une mise en scène ou qu'il en rajoute.
Oui, justement, c'est pour ça que, tu sais, c'est... c'est très imparfait, la couverture en temps de guerre, parce que c'est de la propagande.
Mm-hmm.
Puis, il y a une propagande ukrainienne. C'est comme ça, la guerre est accompagnée toujours d'une propagande.
Mm-hmm.
Russe, oui, bien sûr. Ukrainienne aussi. Puis moi, à un moment donné, on m'a envoyé voir une... j'ai consenti à aller voir une ferme qui avait été bombardée, qui était la plus grande ferme laitière. C'est près de Stary-Saltiv, là, très, très, très à l'est, qui avait été complètement bombardée. Puis cette ferme laitière-là, je me rappelle plus le nombre de litres, mais j'y vais là, de mémoire. Je pense qu'il fournissait 43 000 litres de lait par jour au village environnant. Avec le lait, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fromages, ça veut dire le beurre, ça veut dire tout ce que tu as besoin pour faire des fois des pains, des gâteaux, bref, un peu tout ça. Et il nous avait dit, allez voir cette inscription-là qui a été écrite sur le mur de la ferme en disant, c'est comme ça que ça fonctionne en Russie, allez vous faire voir, on a bombardé votre ferme. Donc là, l'agronome en chef de cette ferme-là me montre ça, mais moi, j'ai aucune manière de savoir si ça a été
peint après. Ça?
Qui a écrit ça? T'sais? Moi, on me dit que c'est eux autres. T'sais. Donc, c'est un peu le travail de « he said, she said », comme on dit. Là, donc, eux affirment ça, mais t'as pas de manière, souvent, c'est ça qui arrive, c'est que t'as pas de manière, des fois, dans ces situations-là, de vérifier ça de manière indépendante.
Ouais.
Fait que t'es pris un peu avec quelque chose qui peut être inexact, t'sais, puis faut que tu sois un peu prudent.
Mm-hmm. Y a-tu des affaires, justement, que tu t'avais entendu ou qu'on t'avait parlé de quand t'es de l'autre bord de l'Atlantique, puis que là, que t'arrives sur le terrain, puis tu sais, c'est comme... pas romancé, mais tu sais que c'est pas vraiment
c'est
comme...
C'est pas exact ou c'est pas... honnêtement, non. Tu sais, moi, je suis un news junkie, là, je m'informe énormément, donc je... Tu sais, mon week-end, je regarde beaucoup d'infos internationales. La semaine, je regarde plus ce qui se fait au Canada, aux États-Unis. Donc, tout ce que j'ai vu, c'était fidèle à ce que j'ai constaté, tu sais... sur le terrain, peut-être que des fois, si j'avais à dire qu'est-ce qui reflète pas exactement la réalité, c'est qu'au fond, on s'habitue plus qu'on pense à une guerre. Parce que où je m'en vais, en fait, c'est que ce qu'on nous diffuse comme image ici, c'est des images de combat, c'est des images de victimes, c'est des images de tirs d'artillerie.
De terreur.
Puis de terreur. Mais en même temps, tu sais, l'être humain, c'est avant tout une bête sociale qui organise sa vie autour de la cité, autour des normes qui sont établies dans une ville, un pays, dans son groupe social, géographique. Puis ça n'arrête pas.
Qui est capable d'adaptation.
Puis ça cesse pas pendant une guerre, à toute fin pratique.
Mm-hmm.
Donc ça, on le voit moins. On voit moins que la vie continue, même... Dans l'Est, même dans des places, écoute, ultra, ultra atteintes par des bombardements, à l'exception de Bakhmout, là, puis de certaines villes où c'est trop intense, mais les gens vivent au milieu des bombardements, puis continuent à sortir, faire des courses le matin, puis ça, c'est un... Mais on voit moins ça, parce que c'est pas toujours les images qu'on veut nous... Ben, pas qu'on veut nous montrer, mais qu'on choisit de montrer, parce que quand tu t'en vas là, tu t'en vas couvrir, tu sais, une guerre, mais la guerre, c'est aussi, c'est surtout, en fait, ceux qui la vivent, puis on a l'impression que tout le monde est caché tout le temps, mais c'est pas ça, là.
Mm-hmm. Ouais, tu cas, pas tout partout, en
Ukraine. Non, c'est ça.
OK. Puis, ben merci, je l'ai jasé justement de ça. Puis on va déjà passer au prochain sujet. Narcos PQ, oui. La route de la cocaïne. Oui, oui. Sorti ça, nowhere, à un moment donné, puis je regardais ça, je fais, Chris, est-ce que c'est bien bon, tabarnak? Est-ce que encore Félix, est-ce qui nous sort ça? Ben, c'est ça, c'est que tu travailles quand même, ben, vous avez travaillé toute ton équipe quand même longtemps sur ce projet-là, parce que ça faisait au moins un an que tu étais en contact avec quelqu'un qui te écrit justement, c'est Angel
Martinez. Son faux nom, là.
Son faux nom, ouais. Bon, ben, OK. Puis, ben, c'est ça, puis pourquoi il voulait te rencontrer, puis en tout cas, tu peux expliquer tout
ouais,
ça.
Oui, oui, ben, écoute, ça commence effectivement, là, donc je pense que c'était à l'hiver, en tout cas en 2021, quand justement ce gars-là, Engel, me rejoint sur WhatsApp. Mm-hmm. Puis il dit, hey, écoute, Google mon nom, puis regarde qui je suis, puis j'ai des choses à te dire. Fait que là, je Google son nom, je vois que c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice, disons. Puis il dit, écoute, je suis en Colombie, puis il dit, je suis un informateur de police. Puis j'ai le goût de sortir de ça. Puis avant de sortir de ça, je voudrais me dévoiler, puis je voudrais dévoiler tout ce qui se passe ici en Colombie.
Ah, OK, lui, il prenait sa retraite.
Là, il prenait sa retraite.
OK.
En tout cas, il essayait. Ouais. Donc, il m'a dit, écoute, ça te tente-tu de venir voir ça dans la jungle, comment on est arrangé? Il dit, nous autres, on sort des tonnes là, par mois là, de coke. Ben, je dis, écoute, là, moi, j'avais peur. La première chose que j'avais peur, c'est de tomber dans un trap shot.
Ah ouais, d'un guet-apens.
D'un guet-apens, tu sais, parce que ta vie a une valeur, tu sais, je veux dire, avec un coup rendu dans la jungle, là.
Ah ouais, là, il n'y a rien qui peut t'aider. Fait que là, t'es dans la gueule du lion.
Oui, t'es dans la gueule du lion. Alors là, je réfléchis, puis je soupèse ça. Puis là, j'appelle, mais tu peux pas appeler tout le monde en disant, hey, j'ai rencontré ce gars-là parce que le gars veut rester. En tout cas, bref, tu sais, je prends mes infos, puis on essaie d'établir le lien de confiance, puis je vais une première fois le rencontrer à Bogota pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire.
Mm-hmm.
Puis là, je skip des étapes, si tu veux, là, mais je le rencontre une première fois. Puis là, moi, j'avais même pas... Tu sais, je dis, écoute, prouve-moi que t'es celui que tu penses, tu me dis que t'es.
Tu prétends être.
Là, il arrive à l'hôtel, il dépose un 357, un 9 mm. La journée d'après, il arrive encore dans la chambre d'hôtel avec un kilo de coke. Je dis, OK, c'est parfait, c'est bon, je pense que ça va. Et on y va quelques mois plus tard, puis c'est là où on s'en va dans la jungle avec lui, puis on est vraiment, tu sais, on a vu des tonnes de coke, ben d'entrepôts ouais. Avec des tonnes. Puis ce reportage-là, le but de ce reportage-là, c'était de dévoiler c'était quoi le chemin. La coke prenait, entre autres, là, de la Colombie à Montréal. Puis un des chemins, mais c'est Air Canada.
Mm-hmm.
Ce qu'on a démontré, c'est qu'à chaque semaine, parce que Montréal, puis Montréal-Toronto, chacun vole direct sur Air Canada qui fait Bogota, ben à chaque semaine, il dit nous...
Il y a tout le temps
quelqu'un qui envoie pour nous, pour notre organisation, dans les soutes d'Air Canada, puis on était un peu flabbergasté, pour tout dire. Parce que quand on est revenu sur le vol Montréal, sur le Bogota-Montréal, on les textait avant, on dit « Hey, on est-tu assis sur... Puis il y avait de la drogue qui était dans notre avion, là, tu sais.
Mm-hmm.
Ah. Fait que c'était pour montrer un peu le... C'était pour montrer ce milieu-là qu'on voit pas souvent, on n'a pas ces accès-là souvent. Puis là, on a décidé d'y aller all-in, si tu me passes l'expression.
Ah ouais, mais Christ, hey, t'as dû quand même avoir peur quand il drop ses guns, puis... Là, tu sais, t'es plus d'une fiction.
Moi, ouais, c'est pas ça, là, les guns. Là. Tu peux m'en dropper, tu peux m'en montrer, ça va. Ça, j'ai aucune réticence, puis ça me heurte pas, puis c'est sa vie, puis c'est ça. Ce qui me fait, moi, le plus peur des fois, puis c'est quand je sais pas d'où vient le danger.
Ouais.
Fait que là, quand on est parti dans la jungle avec lui, puis nous autres, on avait des transpondeurs GPS, tu sais, pour être tout le temps en lien avec quelqu'un à Montréal, pour que quelqu'un voit notre itinéraire.
OK.
Là, à un moment donné, il nous dit, ouais, mais pour aller à telle place, il dit, là, faut laisser, tu sais, les GPS ici, faut laisser les téléphones ici. Il y en a qui vont venir nous chercher, puis ça se peut qu'ils nous emmènent plusieurs jours à quelque part, puis qu'on revienne quand eux autres vont vouloir. Mais là, j'ai dit, Angel, no way. Moi, je fais pas ça. Tu sais, je laisse pas toutes mes affaires ici. Puis, fait que là, eux autres s'en vont. On est dans un pas un Land Cruiser. Oui, je pense que c'est ça. Un Toyota Land Cruiser. Puis, on passe les barrages de police. Il y a son 357 comme ça. Là, son chauffeur aussi. On passe, on se rend. On est dans la Cordillère des Andes. Puis là, on est vraiment au milieu de nulle part. Là, ça commence à fonctionner, nos trucs. Mais c'est parce que là, t'as plus aucun contrôle. Tu sais, à Bogota, j'en avais un peu. On couchait au Hilton. Il y avait de la sécurité. Tu sais, je pouvais quand même... bon, je pouvais, à la limite, je cours à l'ambassade canadienne.
Oui, c'est ça.
Mais il y a plein de... Sauf que là, rendu dans la jungle, c'est plus toi qui... La game, c'est pas toi qui...
Ah ouais, c'est Rambo qui va venir te chercher.
C'est parce que oui, mais oui, mais non. Tu sais,
c'est ça,
il y a personne. Donc là, t'es à la merci de... Comment lui se comporte dans son groupe.
Ouais.
Tu sais, il y a des affaires que tu sais pas. Si lui, il a eu du trouble avec quelqu'un, là...
Ah, c'est ça. Même si c'est pas intentionnel, là, puis...
Puis t'es là en même temps,
c'est la journée
là
qui règle des problèmes.
Oui, c'est ça. Ou si lui décide d'en régler, puis t'es là, tu sais, je veux dire... Y a... Fait que c'est ça, moi, c'est ça qui me... Puis ça, là, j'avais un peu le vertige, là.
Ouais. Il a-tu même amené tes fêtes? Je pense faudrait qu'on y aille. Là.
Écoute, quand il nous a dit on va revenir plus tôt à Bogota, j'ai dit oh yes!
Ah ouais, ouais, c'est ça.
Ouais,
hein?
Ouais. Parce qu'on a eu une situation là-bas où justement il y avait comme on voulait voir un certain endroit où il y avait des champs de coca au fond. Puis on a finalement annulé notre présence. Puis là, le gars qui possédait le champ était fâché. Puis là, il a dit à Angel, il dit je m'en viens de voir, puis on va régler ça maintenant. Engel a eu peur, il a dit on s'en va. Puis moi, j'ai dit sais-tu quoi, parfait.
Ouais.
Tu sais, quand c'est ça, je te dis. Ben donc là, je me sens. Là, je disais ça.
Ben oui, parce que c'est selon leurs règles à eux, là, tu sais. Eux autres, ils règlent leurs problèmes d'une certaine manière.
C'est ça. Puis c'est pas la tienne. C'est pas la mienne. Tu sais, en tout cas.
C'est pas moi t'amener en cours.
Non, c'est ça.
Tu m'as dénoncé sur Facebook.
C'est ça, ou t'envoies, m'as envoyé une mise en demeure.
Ouais, là, c'est ça. C'est pas de même que ça fonctionne.
Non, j'avais, tu sais, j'étais craintif. Ouais.
Puis l'affaire, c'est ça qui a surpris bien du monde, parce que j'en m'en ai fait beaucoup parler. C'est le gars, il disait que à seconde qu'il y avait quelqu'un de Montréal qui arrivait là, il dénonçait à GRC.
Ah ouais, c'était une source de police.
Puis lui, il trouvait ça drôle.
Il trouvait ça comique, lui.
Puis pourquoi qu'il fait ça? C'est...
Ben, ça, là, tente dans la psychologie de quelqu'un. Quand tu sais, les informateurs de police ou les sources de police ou les agents civils d'infiltration, souvent, dans leur parcours de vie, ils auraient toujours rêvé de devenir police eux-mêmes. Ils ont choisi d'être criminels. Des fois, il y en a qui n'ont pas tout à fait choisi, mais qui le sont. Et il arrive un moment aussi où le jeu... Parce que, écoute, quand t'as l'argent, beaucoup d'argent, quand t'as les femmes, ou les hommes, ou whatever, quand t'as, tu sais, quand t'as tout le monde à tes pieds, quand t'as les voitures, quand t'as les restos, quand t'as la belle villa, quand
le
t'as...
Le pouvoir.
Ben, il te manque le pouvoir.
Mm-hmm.
Puis ça, le pouvoir, là, c'est l'affaire, pour eux autres, moi, que j'ai remarqué, qui est probablement la plus grisante de toutes. Et quand tu peux jouer avec le monde... C'est là où tu te sens le plus hot.
Ouais. Fait que ça leur donnerait une forme de pouvoir.
Ben, c'est une réelle forme de pouvoir. Ouais. Regarde, lui, là, il fait de l'argent d'un côté, avec sa business qui est complètement illégale, puis de l'autre côté, il est capable, quand quelqu'un de Montréal ou du Québec ou du Canada arrive en Colombie, d'aller à droite puis dire à GRC, à l'agent de liaison qui est là, regarde, lui, il s'en vient trafiquer demi-tonne. Il a tout le pouvoir. Puis à un moment donné, je pense que ça crée une forme de sentiment d'invincibilité. Il nous a rencontré des affaires complètement débiles quand il était avec la DIA, à un moment donné, dans un bureau. Il avait des micros, les gars en face de lui avaient des guns, tu sais, je veux dire. Puis, il y a aussi dans son cas, puis il faut bien que je le dise, dans son cas, il y avait une forme d'amendement, de dire, regarde, je suis tanné de faire ça. Puis c'est pour ça un peu qu'il voulait se dévoiler, parce qu'il était tanné de faire ça. Cette vie-là commençait à lui peser physiquement. Tu sais, moi, pas sûr que mon cœur tiendrait longtemps, là. Le tien non plus, là. Tu sais, quand t'es pris dans ça, là,
ouais.
Tu sais, il y a pas, il y a deux fins normalement, là. C'est soit en prison, c'est soit mort, tu sais.
Ouais.
Fait que des fois, t'essayes de te sortir de ça, puis tu prends tous les moyens possibles. Puis, tu sais, moi, je juge pas le moyen qu'il a pris, j'en suis bénéficiaire, mais c'est ça, tu sais, c'est plus complexe qu'on pense. Les raisons, c'est multifacette. Mm-hmm.
Puis, à un moment donné, il a commencé à pleurer. Parce que tu as parlé de ses amis
ouais.
qui a perdu, que lui considère comme de la famille.
Ouais.
Puis s'il met à pleurer devant toi. Tu sais, c'est quand même de quoi voir un gars avec ce vécu-là qui en a vécu, qui ouais. se met, qui fond en larmes.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est comme. C'est parce qu'au fond, là, faut toujours que tu sois dans un état d'esprit. Puis pas un état d'esprit fake, là, un vrai état d'esprit où tu fais preuve d'une absence de jugement.
Mm-hmm.
Moi, honnêtement, je juge pas quelqu'un qui a décidé, parce qu'ils n'ont pas toujours décidé, des fois, ils ont eu tout contre eux autres, mais d'être criminel. Puis ça les amenait à des places très, très dark, puis tu sais, moi, je juge pas ça, parce que c'est pas ma job de juger.
Mm-hmm.
Mais, fait que c'est pour ça que... Ils sont capables de remords, ils sont capables, tu sais, d'émotions. Est-ce que c'est sincère maintenant? Ça, c'est un autre débat. C'est peut-être aux téléspectateurs, aux lecteurs
de
juger. Mais, tu sais, moi, la personne que j'avais devant moi, je la sentais sincèrement émue par le fait d'avoir perdu des chums dans son aventure criminelle. Faut juste que tu te dises que c'est comme si, tu sais, la meilleure analogie que je pourrais dire, là, c'est que c'est comme si tu vivais, mettons, toi, avec un coloc, la même vie, mais dans deux pièces différentes tout le temps. Dans une pièce, il y a le crime, la mort, les guns. Dans l'autre pièce, il y a la vie normale, le 9 à 5. Puis tout ça avançait toujours en même temps, là, de manière concurrente. Puis c'est pour ça que ça s'explique, tu sais, parce que lui, dans son système de valeurs, dans son la manière qu'il vit sa vie, il y a des tristesses, tu sais.
Mm-hmm.
Puis il y a des événements qui chambranlent, puis qui le heurtent, et etc. Fait que c'est pour ça, c'est un peu comme ça que j'essaie de m'expliquer, là, puis d'accepter quand quelqu'un a des émotions, parce que ça serait facile de dire, ben regarde, t'as choisi d'être criminel, t'as pas droit à ces émotions-là, t'as pas mm-hmm. droit à se repentir-là, ouais. t'as pas droit à te plaindre, t'as pas ouais. droit de, tu sais.
Mm-hmm.
C'est un peu ça, là. C'est l'idée. Mm-hmm.
Puis, y a-tu de quoi, justement, que vous auriez aimé mettre dans le documentaire que vous avez pas pu?
Ah oui, plein.
Ouais, ouais.
Écoute, j'ai fait à peu près 15 heures d'entrevue avec, là.
Mm-hmm.
Le documentaire a duré 22 minutes, là.
Ah, c'est ça.
Puis, il y a des choses qu'on a pas mis pour sa sécurité aussi.
OK, OK.
Ouais.
Puis,
la sécurité de ses proches.
Ouais.
Tu sais, quand tu fais ça, faut que tu relises, tu sais, tous les petits détails qui pourraient permettre de l'identifier, il faut absolument que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui étaient ultra pertinentes, mais que je pouvais pas utiliser.
OK.
Je pourrais jamais.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je sais que tu en as mis dans un livre.
Ouais.
Ouais, tu en as mis dans un livre, Narco-PQ.
Ouais.
Puis dans ton podcast aussi, ben, ouais. Balado.
Balado.
Ouais, diffusion. Puis, fait il y a plus de détails là-dedans.
Toi, Mike Ward, vous avez un mépris de la balado, hein, c'est ça.
Hein?
Un amour du podcast, un mépris de la balado.
Un petit peu, puis fait que c'est ça, vous avez mis plus de détails là-dedans. Mais y en a-tu d'autres, mettons, que t'aurais aimé ça compter que t'as pas pu, mais pas par question de sécurité, mais juste parce que, je sais pas, le temps manquait ou...
Écoute, le temps manque toujours, c'est pas compliqué.
Ouais, c'est enfin, ça.
Oui, c'est ça. Oui, il y a plein d'affaires que j'aurais aimé dire. Mais heureusement, la balado podcast, c'était un bon... je pense que c'était un bon... Honnêtement, si j'avais comme ma propre promo à faire dans ton show, je dirais que ce balado-là, pour moi, ça explique pas mal bien l'aventure. Là, parce que c'est vraiment moi puis mon collègue Marc Sandreski, qui est lui une ancienne police à Montréal, oublie pas, là, lui était avec moi, lui était un ancien policier au la division du crime organisé à Montréal, qui est devenu journaliste pour nous autres. Fait que c'est moi puis lui qui était là. Lui, là, Marc, là, un ancien policier du SPVM, là, dans cette aventure-là, il a pogné de quoi, je peux te le dire. Hein?
Ah ouais.
C'est ça qu'on détaille un peu dans le podcast, notre aventure, c'est on y va-tu, on n'y va pas, on fait quoi, on fait quel move, oui, non. Mm-hmm. Ouais, c'est assez complet. Mm-hmm. Bref, à ta question, là, je finis par répondre, mais c'est assez complet. Ouais.
OK, cool. Je vais te parler aussi, je vois que le temps avance. Montréal, les fusillades en ce moment, on dirait que ça s'est calmé un petit peu. Ben, calmé un petit peu, tabarde. Parce qu'il n'y en a pas.
Parce qu'il n'y en a pas deux, une par jour.
Une par jour.
Ou deux.
Mais on dirait que c'est ça, dans la dernière année, là. Seigneur, ça arrête plus. Puis avant, tu sais, c'était comme dans certains quartiers, tu sais, plus chaud, mais maintenant, c'est rendu quasiment n'importe où.
Ouais. Ouais, je me rappelle, il y en a eu une l'été passé en face du Centre Bell. D'ailleurs, tu sais, en plein après-midi.
C'est ça?
Ben
même
oui,
à Rockland.
À Rockland,
là, ça, le gars, en stationnement.
En stationnement. En Saint-Denis jour. Aussi, dans le restaurant italien sur la rue Saint-Denis, le gars qui prenait son café, boum, boum, fini.
Ouais. C'est quoi qui se passe? C'est quoi ton opinion de tout ça?
Ben, sur. Exemple, sur les événements auxquels tu réfères, là, exemple, le, ceux qui ont été abattus et dans le stationnement du centre Rockland et sur la rue Saint-Denis, c'était des règlements de compte. Bien qu'ils surviennent en public, qui était relativement propre, entre guillemets.
Okay.
C'est un peu contraire à l'opinion publique de dire ça, mais ils ont été abattus, ils n'ont pas tiré 9 coups de feu ou 18 mm-hmm. partout. Et les suspects se sont sauvés, puis je crois qu'ils n'ont pas même été arrêtés à l'heure actuelle. Bref, il y avait quelque chose qui relevait là-dedans d'un peu plus. Un peu qu'on accolerait au professionnalisme, ouais. J'utilise vraiment des guillemets, c'est le fun qu'on soit filmé pour que je les mette à certains
ouais.
groupes organisé. Du crime organisé.
Oui, c'est ça.
Là, c'est qu'il y a la question aussi de ceux qui tirent un peu partout, ça, ceux que tu décris qui tirent partout, eux autres, ben là, oui, il y en a plus. Là, pour la dernière année, pour l'hiver, il y en a un peu moins, mais là, le printemps commence. Là, déjà, on a vu là, que ça... Ça
ben
reprenait.
Ouais. Tu sais, tentative de meurtre sur Risotto.
Oui, mais ça, c'est un autre dossier.
Ouais,
ça, c'est une grosse affaire.
Ouais, on y revient.
C'est une grosse affaire, ça. Mais tu sais, en fait, là, il y a une question dans ça qui est un peu générationnelle, qu'on comprend un peu mal. Quand on est de l'extérieur, puis qu'on avance en âge, il y a une question de marquage de territoire. Ça commence beaucoup sur les médias sociaux, ces affaires-là. Yeah, ça
ouais.
se termine souvent dans la rue. C'est sur le modèle de ce que Toronto a vécu il y a quelques années. Puis Toronto était sur le modèle de ce que Los Angeles avait vécu, puis New York, il y a plusieurs années passées. Il y a une banalisation de la violence puis de l'arme à feu maintenant là, qui est rendue ici. Moi, je me l'explique un peu comme ça, tu sais. On dirait qu'on est en train d'embrasser un peu la culture aussi des armes à feu. Pas... Puis ça sera jamais comme aux États-Unis, on s'entend, on est plus dire. Mais on dirait qu'à Montréal, il y a certains groupes qui embrassent un peu plus cette culture-là, puis qui, qu'est-ce que tu veux, je te dis, qui jouent du gun, puis qui sont dans la rue, puis qui ont accès aux armes, puis que...
Mm-hmm.
Ouais.
De qui ça vient, ça, c'est-tu...
Ben, normalement, c'est plus
des
gangs,
de
ouais.
Ouais.
Ouais, les gangs de rue, un peu plus.
Puis là,
ouais.
C'est quoi, ils se règlent des comptes entre eux autres, ils ouais. cherchent du beef...
Exact, oui, c'est ça, c'est bien résumé, oui,
ouais,
ils cherchent...
Ces réseaux
souvent,
sociaux.
Là, écoute, il y a un gars qui... Oui, sur les réseaux sociaux, tu sais, les rouges, les bleus, là, c'est encore bien
ah,
vivant,
ouais.
là, cette rivalité-là, là, c'est... Puis, un exemple même... Tu sais, il y a un moment donné, c'est les policiers qui ont vu cette vidéo-là dans une enquête. Il y a un gars qui se fait tirer. Il est dans le lobby de son bloc appartement ou le bloc. En tout cas, il est dans le lobby d'un bloc appartement. Pow, 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 il se fait tirer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait? À la place d'appeler la police,
il
part un Facebook Live. Puis il dit, je viens de me faire tirer par tel, tel groupe.
Ah, oh, le gars même
oui.
s'est fait tirer.
Il appelle pas la police. Là. Fait que tu vois où ça se transporte. C'est moi, je suis complètement capoté. Mais non, je sais.
C'est à être tout. La police, oui. Puis tu fais me reconnaître.
Fais tes affaires après. C'est ça. Fait que c'est ça.
J'ai besoin du contenu.
Ouais.
Du contenu pour mon Patreon.
Ouais, c'est ça. Fait que tu vois.
Il a survécu, le gars.
Il a survécu.
OK.
Il a survécu. La majorité survit.
C'est-tu fait filmer pendant que tu faisais opérer?
C'est ça. Non, mais c'est comme c'est là qu'on est. Là,
il faut t'endormir, on va te mettre un trépied pour que tu puisses mettre ton bras. Aïe, ok, ouais. Fait que, ok, ça viendrait plus des gangs de rue, puis des armes à feu. Il me semble qu'il n'y en a pas tout le temps eu aussi.
Ça, c'est aussi vrai, mais c'est un problème.
Accessiblement,
tu sais. La criminalité là, organisée et pas, là, c'est quand même un grand ensemble. Puis les armes à feu, puis l'importation des armes à feu à partir des États-Unis, parce que c'est surtout dans le nord de l'État de New York. Puis par Aquasasne que les armes à feu arrivent au Canada avec des contrebandiers d'armes à feu. Puis c'est des gens qui sont financés par des membres du crime organisé qui ont des liens avec la mafia, avec les Hells Angels. Donc, c'est eux qui rendent, selon la police en tout cas, c'est eux qui rendent les... Ils ont à voir, même si eux règlent leur conflit de manière, entre guillemets, un peu différente, ils ont quand même à voir avec le problème, ces membres influents du crime organisé-là, parce que ils sont derrière certaines importations d'armes à feu ici. Donc, ils rendent l'arme disponible.
Mais ils sont pas perdants au change quand que ça fait autant jaser dans les médias. Puis là, ben après ça, on parle, la mairesse qui veut amener plus de policiers à Montréal,
Moi, je pense que tu as raison. Là. Ils se sont fait avertir aussi. Là, à un moment donné, il y a une escouade là, spécialisée de la Sûreté du Québec, entre autres, là, avec, je pense, des policiers du SPVM aussi, qui est débarqué là, dans aller voir certains gros Hells Angels. Puis ils ont dit, là, tassé, là. On vous surveille plus, là, à cause de ça. Puis eux autres, ils n'ont pas intérêt à ça. Là,
mais non, dire,
c'est ça. Fait que tu as raison là-dessus, tu sais. Mais en même temps, tu sais... C'est un peu amoral aussi, la criminalité. Là. Tu sais, si t'as une pièce à faire parce que t'as la capacité d'avoir 250 guns qui rentrent, puis tu vas faire 100 000 sur cet envoi-là, mais tu prends le 100 000 ou tu dis hey, calmez-vous.
Ouais, mais c'est peut-être ça, ton 100 000 qui va t'empêcher de faire un million.
Ouais, un million. Peut-être, oui. Ouais, peut-être.
C'est plus avant que je le verrais, mais gars, je suis pas à la bourse. Hein, mais c'est parce que moi, tu sais, une de mes questions, c'était est-ce qu'à un moment donné, la mafia ou les motards vont pas faire le ménage là-dedans, justement, pour en revenir à être plus tranquille? Mais là, qu'est-ce que je comprends, c'est. Ils sont pas mal...
Moi, qu'ils fassent s'organisent avant d'organiser les autres, hein, parce que là, c'est ce qui se passe. Là. La mafia est déstabilisée à Montréal. Ils ont pas de véritable leader. Ils en ont deux. Il y en a un qui est hyper malade, Stefano Sollecito. L'autre, Leonardo Rizzuto, qu'on a essayé de tuer au mois de mars. Puis c'était une vraie tentative de meurtre. Là. C'était pas juste pour avertir,
faire
peur.
Moi, c'est quoi qui s'est passé? C'est...
En fait, Leonardo Rizzuto était à bord de son véhicule. C'était un VUS Mercedes. Puis il était sur l'autoroute 440. Puis un véhicule qui est arrivé à côté de lui. On a tiré, je pense, c'est 8 balles.
Un drive-by.
Mais comme la circulation était presque immobile, c'était... Mais bref, il l'a manqué. Là, tu t'attaques pas au Rizzuto comme tu veux, parce que le gars qui a présumément arrangé ça, aujourd'hui, il y a un contrat de 250 000 sur sa tête, puis des gens qui ont permis que ça se fasse font partie, selon les prétentions de la police, c'est des gens qui ont été perquisitionnés là juste assez récemment, il y a quelques semaines, des Hells Angels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre... Parce que normalement, ce monde-là sont assis ensemble, là. Parce que les Hells Angels sont à la même table, ou en tout cas quelques à Montréal, que les Siciliens, puis certains Calabrais, puis on règle un peu de crime. Sauf que là, c'est des gens qui étaient assis à la même table que Leonardo Rizzuto sont soupçonnés par les Rizzuto d'avoir essayé de passer Léo. Ça pourra pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis fait que c'est pour ça là, que tu sais. Est-ce qu'ils sont dans une situation où ils sont capables nécessairement de régler, comme Vito Rizzuto l'aurait fait, là, comme les policiers disent, là, qui était comme un peu le gars qui calmait tout le monde? Tu sais, quand c'est pas calme dans ta maison, t'es mal placé pour rentrer dans chez la maison du voisin puis dire hey, calmez-vous. Quand ça marche pas chez vous. Fait que c'est un peu ça qui se passe. On théorise, mais c'est un peu ça.
Ben aussi, il y en a. C'est quoi, peut-être qu'il y en a qui voulaient le remplacer? Ou qui...
Ben, peut-être, oui. Peut-être. Peut-être qu'il y en a qui... tu sais, mais oublie pas, là, les risottos, là, c'est une histoire familiale là, qui date, qui commence, tu sais, en Sicile, là, à la moitié du siècle, avec le clan Mano, avec des gens très, très, très importants dans la Cosa Nostra, là. Et ça a donné Niccolò Risotto père, ça a donné Vito Risotto le fils, ça a donné Leonardo Risotto le fils de Vito. C'est une famille qui est multimillionnaire, qui a encore la capacité d'agir, tu sais. Fait que puis donc on est devant un drôle de pour Leonardo Risotto, il semble, tu sais, les sources policières rapportent du moins qu'on est devant un drôle de choix. Tu peux pas laisser passer ça. Ou si tu laisses passer ça, faut que tu t'en ailles.
Mm-hmm. Parce que c'est considéré comme une faiblesse. Ouais, c'est ça.
Mais le clan Risotto qui disparaîtrait de Montréal, ça serait... Ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans en 2028 si tout se poursuit. Ça ferait 50 ans en 2028 que le clan Risotto a renversé le clan Calabrais. Donc en 78, ils ont pris le pouvoir, entre guillemets, à Montréal.
Mm-hmm.
Donc, on est dans une période assez importante, là, tu sais.
C'est qui l'organisation la criminelle la plus puissante en ce moment, tu sais?
Selon les policiers, c'est les Hells Angels.
Ah ouais?
Ouais.
Qui ont pris le dessus?
Qui contrôle la criminalité dans toute la province, selon les policiers. Je pense que les policiers sont d'accord aussi avec le fait que ceux qui sont plus... pas rusés, mais qui ont les tentacules les plus longues dans le système légal, entre autres, c'est la mafia. Donc, ils ont peut-être un peu plus d'argent puis de possibilités d'investir dans certaines grosses opérations criminelles. Ouais, c'est pas mal le portrait.
Okay.
Mais c'est parce que les Hells sont un peu partout au Québec. C'est un
ah ouais, ils sont revenus un peu...
Oui, oui, ils sont partout. Là, okay. Ils ont dit des gens dans toutes les provinces, dans toutes les provinces, mais dans toutes les régions du Québec, au contraire, tu sais, de la mafia qui a personne en Gaspésie, là. c'est un peu ça.
Ouais. Mais, on dirait qu'ils sont un peu plus tranquilles, parce qu'on entend, moi, du coup, j'entends plus parler d'eux autres, là. Je sais pas si c'est moi qui...
Moi, j'entends beaucoup parler d'eux autres, mais ça, c'est parce que je suis un freak, puis c'est ma job. Ouais. J'entends beaucoup parler d'eux autres, mais... C'est de la chronique un peu quotidienne. Je publie pas tout ce que j'entends parce que tout est pas bon à publier de toute façon. Mais on n'est pas loin là, des places où ils se tiennent ici. Là. Mm-hmm. Ils se tiennent encore. Ils ont encore les endroits où ils vont tout le temps. Le Rhum Café, le Café Belle Rose à Laval. Certains cafés sur la rue Jean Talon. C'est pas... Sais-tu quoi? Quand tu dis ça... Ça fait probablement leur affaire.
Ah ouais.
Parce que l'essence même de la mafia, c'est la discrétion.
Ben, c'est ça. Puis là, ils sont venus avec plus ça.
Ce que tu vois pas, souvent, ça fait pas mal.
Mm-hmm.
Mais c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça existe pas. Hein, on dirait que c'est comme un grand donneur de leçons. Jérémy, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça existe.
T'es devenu mon...
Le parrain.
Ouais, c'est ça. Ou mon oncle Ben dans Spider-Man.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix, man. C'est vraiment cool.
Hey, veux-tu que je prenne 2 minutes de te raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le tournage de Gérald du film Confession?
Oui. Vas-y.
Je veux pas
prendre trop de ton temps.
Non, mais ça, je veux te le raconter parce que c'est trippant au bout.
Puis moi, je veux juste le montrer, le plugger. Le livre, man, allez vous le procurer. Super bon. Puis le film, calé, j'ai trippé.
Bon, tant mieux, moi aussi. Luc Picard est un gars phénoménal. Il joue. Donc, Gérald Galland a tué 28 personnes, un des plus grands tueurs à gages, en tout cas productifs, de l'histoire canadienne. On a fait un livre sur lui. Bref, tout ça passe. Crystal Film a acheté les droits sur le film. C'est Luc Picard qui a réalisé le film sur le tueur à gages, mais c'est lui qui a joué le tueur à gages aussi. Mm-hmm. Il fait un job complètement débile. Puis c'est Sylvain Guy qui a fait le scénario aussi. Un autre job complètement débile. Mm-hmm. Il y a David Lahaie dans ça, je sais pas si tu t'en rappelles, qui joue le partner de Gérald Galland, qui livre une performance complètement débile aussi.
Moi, je livrerai pas des divulgâcheurs là, qui disent, parce qu'il y a des moments là, qui sont écœurants. Là,
c'est un bon, bref, c'est un maudit bon film de gangster.
Ouais.
Tu sais, comme les Américains en feraient. On n'a pas à rougir de ce film-là. C'est un bon film de gangster. Ouais,
il rentre dans mes films préférés, comme Mafia Inc. aussi, là, que j'avais capoté sur le film.
Ben, quand Luc Picard a commencé à se familiariser avec le personnage de Luc Galland, de Gérald Galland plutôt. Il m'a dit, hey Félix, j'aimerais ça qu'on aille en jaser un peu. Là. On se rencontre au restaurant. Luc Picard est sur le trottoir avec son paquet de players. Il fait une cigarette. Puis on s'en va prendre un café. Puis il dit là, il dit, peux-tu m'aider un peu à construire le personnage? Puis là, moi, je suis comme, wow, c'est Luc Picard qui m'a demandé ça. J'ai le goût de dire, je sais pas trop, man. Je peux te faire voir des vidéos, tu sais, peut-être. Fait que maintenant, j'arrive avec une centaine d'heures de vidéos de Galland en interrogatoire, puis je donne ça chez lui. Puis il me rappelle quelques semaines plus tard, puis il me dit, viens chez nous à nouveau. Je dis, OK, parfait. Moi, déjà, je suis comme un peu, honnêtement...
Impressionné?
Je suis pas mal impressionné. Ouais. Parce que moi, Luc Picard, il m'impressionne.
Mais ouais.
Puis des comédiens, ça m'impressionne, parce que ça fait un job que je fais pas. J'admire le fait de pouvoir jouer quelque chose. Je suis un peu...
C'est une légende.
C'est une légende, tu sais. Puis là, et là, il m'accueille. Il ouvre la porte, il dit... faut savoir que Gérald Galland, c'est un bègue.
Ouais.
Il dit... Bonjour, Félix.
Fait que là,
il commence à me le jouer. Puis là, je suis comme, wow! Et c'est là, il l'a là, à perfection. Mais c'est parce qu'en plus, il me demande, il dit, penses-tu que je devrais faire plus ça ou plus ça? Moi, je suis comme, écoute, Luc, tu me demandes de te coacher.
Ah, ouais. Puis t'es trop impressionné.
Je suis trop impressionné, tu sais. Puis j'ai bien du fun. On prenait une bière, on jasait de ça et d'autres choses. Honnêtement, moi, ça a été un moment, ça a été mon moment groupie de ma vie. Là. Tu sais, j'étais comme. Dans toutes mes expériences, là, c'est comme presque en haut. C'est juste ça que je voulais te raconter.
Puis le gars, il a déjà passé du temps avec Andrew Scopa. Puis...
Oui, ça, c'est...
Peut-être passé proche de se faire gonner en Ukraine aussi.
Ouais.
Ah, ben c'est cool. Y a-tu d'autres choses que tu voulais parler?
Non, c'est sur tout.
Ça? Encore une fois, gros merci. Félix. C'est super nice. Y a-tu de quoi que tu veux plugger, que le monde a écouté? Je sais qu'à JE, vous avez les 10 ans de...
Oui, si je peux plugger quelque chose, oui. Ça fait 10 ans que le bureau d'enquête de Québécois existe. Ça fait 10 ans qu'on sort des scoops.
Vous faites des bons reportages en plus.
Ça fait 10 ans qu'on sort des scoops. Faire de l'enquête journalistique, la première chose que ça fait, c'est que ça coûte de l'argent. La deuxième chose que ça fait, c'est une différence dans la vie du monde. La troisième chose, c'est que c'est pas compliqué. Le journalisme d'enquête, c'est assez simple. C'est de trouver quelque chose qu'on veut te cacher.
Mm-hmm.
Puis moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Fait qu'on célèbre 10 ans de journalisme d'enquête à Québécois aujourd'hui, à TVA, au Journal de Montréal. Je travaille avec une hostie de belle gang.
Ouais.
Que j'adore.
Ouais.
Puis je veux juste dire que si eux autres sont pas là, moi je suis pas là. On est comme. C'est comme si on.
Mm-hmm.
On est.
Une synergie.
Une synergie, oui, merci. alors je trouve que c'est important de dire qu'il y a quelqu'un, tu sais, puis j'ai d'autres collègues qui le font aussi dans des médias vis-à-vis, puis bravo à eux autres aussi. Mm-hmm. Rends-toi compte d'une chose, là. Au Québec, pour la population qu'on est, on a deux émissions hebdomadaire d'enquête à chaque semaine à la télé. Enquête à Radio-Canada, JE à TVA,
mm-hmm.
un bureau d'enquête à la presse, un bureau d'enquête au Journal de Montréal. C'est un écosystème qui est à ce que les autres là, peuvent envier. Puis je suis content qu'on puisse faire ça au Québec beaucoup, beaucoup.
Ah ouais.
Et tout.
Ben, c'est tout cool. Ben, moi, j'encourage le monde à aller écouter votre podcast, Narcos PQ.
Parfait.
Puis à procurer les livres aussi, man. Tu sais, encourager. Moi, super aimé ça. J'ai acheté toutes les autres.
Excellent. Prochaine fois, achète ça 2 copies.
Je fais
2 piastres là-dessus.
Ouais. Bon. Scopa, pas, je n'ai acheté 2. Un pour mon père aussi. Okay. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen. Yeah. Pom, 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 pom.